Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Transistor, 20h passées de 32 minutes, c'est-à-dire l'heure de début de l'émission passée de 2 minutes. Quelques petits retards d'ordre, entre autres urinaires, n'est-ce pas Arthur? Pour ce journal radiophonique amplifié de retour avec donc une demi-heure de décalage pour venir collecter, décortiquer l'actualité mixée, égalisée, montée. Et bien sûr, amplifié. On se retrouve donc, eh bien, comme d'habitude, avec une revue de presse qui aura lieu tout à l'heure. On sautera le biais économique, mais promis, nos économistes préférés, vos économistes préférés, reviennent dès le prochain numéro. On sautera à la culture, avec entre autres une chronique musicienne. On ira également faire un tour sur le chemin de l'école, il me semble. Et on terminera sans doute un petit peu en avance pour ce numéro légèrement perturbé. Mais tout de suite, on commence donc avec le journal qui est présenté par Marie. Bonsoir Marie.
Bonsoir, bonsoir à tous. On commence par le National. C'est parti, on commence pour changer par les Gilets jaunes avec toi Arthur.
Et oui, les Gilets jaunes ont décidé de présenter une liste pour les européennes. Pour le moment, on a le droit à une liste de 10 noms seulement sur 79 requis. Qui a été présenté par certaines personnalités des Gilets jaunes européennes. C'est des élections particulièrement intéressantes pour eux car c'est une des rares élections françaises qui compte à la proportionnelle. Le mouvement s'appelle le ralliement d'initiatives citoyennes, comme le référendum du même nom, à savoir la proposition phare du mouvement. Sinon, si l'on regarde, il n'y a pas vraiment de programme défini, plutôt des valeurs promues telles que la solidarité, l'humain et les intérêts des vrais Français. En fait, la liste des Gilets jaunes n'aurait de valeur que par elle-même, que par la représentation qu'elle permet, à savoir des membres véritablement de la société civile, parce qu'on a le droit à des petits fonctionnaires ou même des petits commerçants qui iraient au Parlement européen.
Et on passe à un sujet totalement différent avec Danny Boone. C'était un des comédiens les plus appréciés des Français, mais pas sûr que sa réputation reste intacte après les révélations à son sujet. Danny Boone est en effet accusé par Mediapart d'avoir recouru à des techniques d'optimisation fiscale, légales certes, mais qui font douter de la bonne foi de celui qui prônait le patriotisme fiscal. Selon l'enquête de Mediapart, Danny Boone aurait multiplié les résidences fiscales à l'étranger, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Il aurait également investi massivement dans des hedge funds domiciliés dans des paradis fiscaux, comme les îles Caïmans, et demandé en 2016 à ses avocats que le droit fiscal français sur l'héritage ne s'applique pas à son patrimoine. Alors tandis que les médias se déchaînent et se battent pour relayer l'enquête de Mediapart, l'acteur a pour l'instant gardé le silence face à ces accusations. Et je crois par contre que le silence, les Gilets jaunes ne l'ont pas gardé. Arthur, on repart avec ce fait d'actualité?
Non, moi je peux vous parler en tout cas du grand débat.
Le grand débat, oui.
Le grand débat où les Gilets jaunes pour le moment décident de jouer aux abonnés absents, puisque depuis le 15 janvier, nous sommes officiellement dans le grand débat national, la solution du pouvoir face à la crise sociale. Réunion locale, initiative que l'on peut demander sur le... Organisé grâce au site, réponse à des questionnaires, tout semble être mis en place pour recueillir les doléances des Français. Mais on peut s'interroger aussi sur l'organisation de ce grand débat. Car si on les regarde bien, les questionnaires ne laissent pas beaucoup de possibilités de réponse et ressemblent à un choix entre la peste et le choléra. L'État s'y investit tellement qu'il a recours à des bénévoles pour organiser tous les événements. Et bien sûr, le chef de l'État qui passe son temps devant les élus locaux durant 7 heures. Et si on regarde plus attentivement son intervention, on a plus la sensation qu'Emmanuel Macron non pas écoute, mais parle et ressemble, et nombreux de ses discours ressemblent à certains de ceux qui d'avant mai 2017, à savoir son élection. Légitimement, on peut alors se demander si ça n'est pas une grande campagne pour le pouvoir et la République en marche.
Et on commence maintenant ce survol de l'actualité internationale par un tour au Venezuela qui célèbre le 61e anniversaire de la chute de la dictature, où la situation s'avère plus que chaotique. Alors que les rues de Caracas voyaient s'affronter les partisans du président Nicolas Maduro et les opposants à un régime contesté par une majeure partie de la communauté internationale et jugé contraire à l'état de droit, le président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, s'est autoproclamé président en exercice. Si la Cour suprême, composée de fidèles au régime, a ordonné une enquête pénale contre les membres du Parlement et que l'armée a refusé de reconnaître Guaido comme président par intérim, le jeune ingénieur, désireux d'ailleurs d'organiser de nouvelles élections, a été immédiatement soutenu par Trump, qui a jugé l'Assemblée nationale comme seule branche légitime du gouvernement. Guaido a également été reconnu par le Brésil, par plusieurs membres de l'Union européenne et du groupe de Lima, tandis que Maduro, réélu en mai au terme d'un scrutin contesté, compte désormais sur son armée pour se maintenir en place. Et on continue maintenant avec la suite de l'affaire Carlos Ghosn avec toi Mathilde.
Oui, puisque Carlos Ghosn est en prison et que pour le remplacer, ce sera donc Jean-Dominique Senard et Thierry Bolloré qui ont été nommés à la tête de Renault pour le remplacer. Jean-Dominique Senard, actuellement président de Michelin, jouit d'une image de patron social et est vraiment soutenu par l'État qui est premier actionnaire de Renault. Les deux hommes doivent donc maintenant se partager les fonctions de l'ancien patron qui avait suscité de maintes polémiques du fait de son salaire astronomique. À voir si les nouveaux seront un peu moins gourmands.
On part maintenant pour la Colombie. Samedi dernier, un attentat à la voiture piégée secouait Bogota en Colombie et tuait 20 policiers dans les installations de l'École nationale de police. Mardi, l'attaque a été revendiquée par l'Armée de libération nationale, ou ELN, une guérilla d'obédience guévariste, la dernière guérilla active du pays après la transformation des FARC en parti politique suite au processus de paix de 2016. En représailles, le gouvernement a cessé les négociations de paix avec l'ELN, des négociations déjà au point mort depuis plusieurs mois, et réactivé les mandats d'arrêt visant les négociateurs de l'ELN, actuellement réfugiés à Cuba. Alors que la droite profite de l'occasion pour critiquer la politique de paix du précédent gouvernement et réclame une politique active de sécurité, le président a exigé que le groupe cesse toutes ses activités criminelles et libère les 17 otages qu'elle détient toujours avant de reprendre les pourparlers. En attendant, une marche contre le terrorisme a rassemblé dimanche dernier le président et les citoyens unis pour dire non au terrorisme. Et pour finir, on part à Davos en Suisse pour le Forum économique mondial.
Oui, le Forum économique qui se tient du 22 au 25 janvier, donc actuellement. Forum auquel ont renoncé Theresa May pour cause de Brexit, Emmanuel Macron pour cause de gilets jaunes et Donald Trump pour cause de shutdown. Ça fait beaucoup d'absents donc, mais il y a encore des PDG et des chefs d'État bien décidés à être présents pour appeler à une mondialisation inclusive et à une remoralisation de la mondialisation, d'après les termes du fondateur même du sommet. On peut se rassurer donc, tout ce beau monde, arrivé dans plus de 1500 jets privés, a promis une mondialisation plus soucieuse des questions environnementales. On compte sur eux pour nous sauver.
Merci beaucoup à tous les trois pour ce petit retour sur l'actualité de la semaine. Et tout de suite, on te retrouve, Maë, pour un sujet long renommé en billet d'ici. En écho au billet d'ailleurs de Marie, c'est quand même tout de suite plus joli. Je me demande comment on a fait pour attendre un an pour trouver le nom. Bref, le billet d'ici donc.
Le billet d'ici.
Maë.
Et le mouvement Nuit Debout se poursuit. C'est même étendu ces derniers jours en région.
Tous les sujets seront abordés, il sera mon invité en direct.
Journée de mobilisation aujourd'hui avec les enseignants et étudiants. Est-ce que je change de micro ? Avec les étudiants qui sont descendus dans la rue pour protester contre les réformes des lycées et suppression de postes.
Je t'en prie, Maë, continue.
Alors, journée de mobilisation, mais c'est pas possible. Journée de mobilisation, je ne m'entends pas.
Mais parle !
Ah, ok, bon. Alors,
allez, on reprend, c'est parti.
Les étudiants sont descendus dans la rue pour protester contre les réformes des lycées et les suppressions de postes dans les collèges, l'ENS de Lyon et les personnels en grève. Samedi dernier, c'était l'acte 10 des Gilets jaunes qui a rassemblé encore une fois des dizaines de milliers de manifestants et la lutte continue ce week-end encore pour l'acte 11. Entre slogans et sifflets, cependant, de nouveaux sons se font de plus en plus difficiles à ignorer, difficiles même à écouter parfois, âme sensible s'abstenir, la violence fait du bruit.
C'est son camarade. C'est quoi le problème?
Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, l'écrivain David Dufresne, ancien journaliste à Libération et télé-enquêteur pour Mediapart, recense inlassablement les cas de violences policières dans les manifs. Allô Place Beauvau, c'est pour un signalement des centaines de blessés, plus ou moins graves, des mutilations, une vingtaine de personnes ayant perdu un œil, quatre personnes ayant perdu une main. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé?
Sur le côté.
Sur le côté là-bas.
Il y avait des flics en civil et ils nous ont jeté des trucs.
Pourquoi ils vous ont jeté des trucs?
Je sais pas, ils ont pas le badge, je sais pas les gars.
Je suis la mère d'un gilet jaune qui a été blessé à la fin de la manifestation sur Rennes hier soir, au moment où les gens commençaient à se disperser. Mon fils et certains de ses amis étaient autour d'un blessé qui a été évacué peu de temps après. Et il constituait en quelque sorte un ruban de sécurité entre les pompiers et le reste des manifestants qui, d'après ce que je sais, ne présentaient aucun danger. J'en profite d'ailleurs pour avoir une pensée pour la dame de 70 ans qui a été admise à l'hôpital peu de temps avant mon fils. Elle a été matraquée et c'est vrai que probablement elle aussi devait présenter un gros danger. Je sais pas, je peux pas vous dire. D'après ce que les amis de mon fils m'ont raconté, une première grenade de désencerclement l'a atteint alors même